Je suis arrivé aux finances début novembre 81. C'était à la suite d'événements douloureux et de manifestations dans les principales villes après les décisions de relèvement des prix des denrées de première nécessité opérées par le Maroc.
Bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, nous entendons l'histoire personnelle de l'estimé Abdellatif Jouhari, gouverneur de la Banque du Maroc depuis 2003 et l'homme derrière les grandes réformes qui ont fait au Maroc l'une des économies les plus importantes de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour enregistrer l'édition spéciale de notre magazine Finance et Développement consacré aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech en octobre 2023.
Taline Coran-Chalian est directrice adjointe du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI. Elle s'est entretenue avec le gouverneur Jouhari au Maroc pour parler de sa longue et éminente carrière.
Monsieur le gouverneur, commençons cette conversation par les années 80, lorsque vous étiez ministre des Finances.
Oui.
Que retenez-vous de ces jours? Quels souvenirs vous avez de vos premiers jours en tant que ministre des Finances du pays?
Ah là là. Évidemment, il faut resituer ça dans le cadre de la conjoncture internationale. C'est les années post-deuxième choc pétrolier de 79, avec des éléments extérieurs où les taux d'intérêt, le prix du pétrole, tout ça était très fort. Et dès mon arrivée aux finances, je voyais déjà les fragilités auxquelles on allait faire face. J'étais dans le cadre d'un gouvernement quand même politique, où il y avait des partis politiques traditionnels très forts. J'ai commencé un petit peu à tâter le terrain, mais j'ai vu qu'il y avait une certaine réticence à me suivre déjà dans les solutions douloureuses auxquelles j'appelais. Alors, le temps m'en donnait un petit peu raison. Début 83, en février 83, je me rappelle très bien, j'étais dans mon bureau et j'avais avec moi le vice-gouverneur de la Banque centrale. Et mon assistante me dit, le directeur du département étranger qui est en charge de la gestion des réserves de change du Royaume veut vous voir tous les deux. D'ailleurs, j'étais un ancien collègue puisque j'ai fait une partie de ma vie professionnelle à Banque du Maroc. Je connaissais très bien. Il est entré dans mon bureau, il était blême. Et il me dit, nous n'avons plus de devises. C'était pour moi, je dis, il n'y a plus de devises. Comment il n'y a plus de devises? Sur le coup, j'ai dit au vice-gouverneur, écoutez, avec chacun on va réfléchir ça, chacun de notre côté. Je commençais un petit peu à réfléchir. Puis j'ai dit, bon, évidemment, une telle nouvelle, il faut la porter au plus haut niveau, donc au chef de l'État. J'ai appelé le gouverneur en disant, écoutez, vous et moi, il faut que tout de suite, on ait un rendez-vous avec Sa Majesté, qu'on lui parle un petit peu de la situation que nous vivons. Nous prenons la route sur Fès et évidemment en s'adressant au directeur du protocole, disons c'est urgent. Et c'était un général que je connaissais. Mais en arrivant dans sa suite à l'hôtel, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est urgent, vous voulez voir Sa Majesté? Et je lui ai dit, écoutez, peut-être que demain, la lumière que vous avez dans cette suite bien, ne s'allumera plus. Quoi? La lumière ne sera plus dans... Oui, nous sommes dans une situation. Peut-être demain, vous n'aurez pas votre lumière. Et donc, le lendemain, il me rappelle et il me dit, Sa Majesté t'attend, mais tout seul, sans le gouverneur. Donc, je me rends le lendemain, très vite, j'ai été reçu par le roi. Je me rappelle, j'ai cette image, chemisette, assis. Derrière lui, il y avait une fenêtre en fer forgé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Majesté, voilà, j'étais dans mon bureau. Voilà. Me dire, on n'a plus de devise. Elle me dit, alors, qu'est-ce que tu proposes? Je dis, c'est une situation tout à fait nouvelle pour moi. Hein. Maintenant, ce que je vous propose, vous me donnez 48 heures. Je vais demander à l'équipe du Fonds monétaire international, et évidemment à travers mon interlocuteur qui était celui avec qui je négociais déjà au Fonds habituellement, au titre des articles 4, effectivement, j'arrive à Washington. C'est à moi ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que le club de Paris, le club de Londres, le programme avec le Fonds monétaire international, etc. C'est le point de départ. Vous voyez que c'était avec l'équipe du Fonds. C'est avec l'équipe du Fonds que je suis revenu. Et j'ai expliqué tout ça à Sa Majesté. Dès alors, tu préconises quoi sur le plan opérationnel? Et donc, ce que je vous propose, c'est une commission qui va réfléchir sur une loi rectificative des finances. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit les budgétivores, la défense nationale. Il me dit ça, c'est entre toi et moi. Je suis patron de la défense, c'est entre toi et moi. Et il m'a dit, je vais vous mettre en conclave pendant 2 jours, bien, dans ma résidence secondaire à Fès. Je vais vous envoyer le déjeuner, le dîner. Et comme pour l'élection du pape, vous ne quitteriez que lorsque vous aurez mis au point bien, ce que vous allez proposer comme loi rectificative. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Et je me rappelle, c'était le 30 avril et le 1er mai. On finalise ça, je reviens vers Sa Majesté, je dis, le programme est là. Il me dit, conseil des ministres le soir même, que je préside. Et je vais vous dire un peu en français ce qu'il a dit en introduction au conseil des ministres. Il a dit, mes aïeux de la dynastie, quand le pays étant en difficulté, ils montaient bien, ils partaient, je dirais, à la conquête, l'halka, en arabe. Eh bien, moi aussi, dans ces circonstances que connaît le Maroc, et qui évidemment sont très difficiles, et moi-même, je vais partir un petit peu au combat. Ceux qui veulent me suivre, évidemment, seront les bienvenus. Mais ceux qui ne veulent pas me suivre et qui estiment que la situation est trop difficile, eh bien, je ne leur en voudrais pas. Mais on les laissera tranquilles. Évidemment, autour de la table, tout le monde a commencé à dire, « Pas du tout, Majesté, nous sommes derrière vous, on va vous suivre, etc. » Alors, ils se retournent vers moi. Alors maintenant, dis-leur à quelle sauce ils vont être mangés. Alors c'est comme ça qu'on est parti dans le cadre du programme d'ajustement structurel.
C'est intéressant.
Voilà.
Très intéressant.
Voilà, c'est comme ça qu'on est parti dans le programme d'ajustement structurel.
Et le FMI, votre relation, comment vous les voyez?
Écoutez, je vais vous dire. Alors maintenant, le déroulement du programme. J'avoue que ils ont fait preuve d'intelligence et de flexibilité relative. Parce qu'à l'époque, les règles étaient très dures. Hein. Je me rappelle qu'on avait un double plafond, le plafond pour les dépenses gouvernementales, le plafond pour le crédit bancaire, etc. Mais mes souvenirs, c'est qu'on n'avait jamais rempli à 100% les critères. On était entre 95, 97. Et puis, c'est là où j'ai trouvé que le fonds et ses structures, c'est-à-dire le conseil, faisaient preuve à la fois d'intelligence, mais aussi, je dirais, de compréhension dans le cadre un petit peu de ce qu'on, faisait. Mmh. Voilà.
Donc le fonds vous a aidé un peu quand même?
C'est-à-dire,
a été flexible avec vous.
C'est-à-dire que quand il était convaincu de l'argumentaire, il n'avait pas de position dogmatique. Même s'il s'agit à la fois, disons, de partenaires comme la Banque mondiale qui est en face, mais aussi du Club de Londres qui représentait quand même les créanciers privés, mais qui sont des pays développés, etc. Et il n'avait pas de position dogmatique. Quand il était convaincu de l'argumentaire, ben, il prenait un petit peu le côté qu'il puisse aider au maximum. Ben, je me rappelle de ce cas que je voulais un petit peu citer dans cette période un petit peu difficile.
Très intéressant.
Quand on a engagé le PASS avec le Fonds monétaire international.
Oui, ça c'est dans les années 80. Bon, plus tard.
Alors.
Avançons un peu, après une décennie, disons. Vous avez passé une décennie dans le secteur privé, puis vous êtes devenu gouverneur de Banque El Maghreb en 2023.
Oui.
Cette période a marqué le début d'une ère de profondes réformes structurelles au Maroc qui ont permis à renforcer la résilience de l'économie marocaine face à de nombreux chocs défavorables.
Oui.
Quelle est la recette de cette réussite?
Écoutez, je vais vous dire. D'abord, je pense qu'il y a un élément fondamental qu'il faut rappeler, c'est d'abord une indépendance de la Banque centrale de fait, de facto, parce qu'elle a toujours relevé du chef de l'État, de Sa Majesté. Sa Majesté nommait des personnes, soit des autorités morales, soit des autorités, enfin des personnalités morales ou des personnalités techniques qu'il connaissait, en qui il avait confiance. Et c'était presque. Puis après, c'est devenu une indépendance qui a été mise dans le texte. Et ça, ça donnait à la Banque centrale, je dirais, une appréciation qui était tout à fait objective et qui avait son poids. Parce qu'elle n'était ni liée à des partis politiques, parce que les gouvernements se sont succédés avec des différentes tendances, mais la Banque centrale était là avec son indépendance, sa rigueur, sa crédibilité, en train d'apporter sa contribution un petit peu à tout ce programme. Beaucoup de choses ont été avancées sur les réformes. Nous avons toujours indiqué des éléments fondamentaux, avec d'ailleurs une certaine pédagogie, une certaine sensibilisation, en disant, n'oubliez pas les équilibres macroéconomiques. Les équilibres macroéconomiques font partie de la souveraineté nationale. Quand vous parlez de souveraineté nationale, mettez toujours dans votre tête qu'il faut sauvegarder ces équilibres macroéconomiques. Et je pense que cet effort pédagogique, cet effort, je dirais, de sensibilisation, ce dialogue permanent entre banque et gouvernement, bien, a permis au Maroc, qui a mis quand même 20 ans ou presque, pour remonter la pente à partir du programme d'ajustement structurel, pour pouvoir bien bénéficier et être reconnu au niveau du Fonds monétaire. En 2012, avec la PLL, c'est-à-dire la ligne de précaution et de liquidité, et tout récemment avec la ligne modulable. Mais nous avions toujours une attitude constructive en ce qui concerne les autres réformes.
Tout à fait, monsieur le gouverneur. Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que pour nous, c'est un point essentiel. Bon, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que peut-être qu'on doit voir plus les réformes structurelles, mais la stabilité macroéconomique et les équilibres macroéconomiques sont la base aussi, font partie. C'est une nécessité pour le reste.
C'est le prérequis.
C'est ça.
Je vous donne un exemple, c'est très simple. Nous sommes sur le régime de change. Nous estimons que c'est une réforme très importante que nous avons menée avec l'appui du Fonds monétaire international. Et je vous dirais que les équipes que nous avons eues quand nous avons engagé la réforme sur le régime de change étaient des équipes de très haute qualité. De très haute qualité. Je mesure mes mots. Non seulement ils nous ont permis nous-mêmes de constituer nos équipes, mais en même temps ils étaient d'une disponibilité et répondaient très rapidement aux différentes questions qui se posaient, et surtout, je dirais, aux changements qui se sont opérés avec le Covid. avec le changement de Covid, au niveau des modélisations qui devaient également. Ben, là aussi, il faut bien le dire. Bon, je vais plus loin. Dans les articles 4, et ça va nous ramener à ce que j'ai dit dans votre première question, au titre de l'article 4, on voyait souvent le Fonds monétaire me dire, écoutez, les prérequis sont là, il y a une belle fenêtre, il ne faut pas passer à la deuxième étape. Je dis attention, c'est pas que, oui, nous avons les prérequis, mais je ne suis pas très sûr que les opérateurs sont préparés ou sont totalement préparés. Et je dois avouer qu'ils l'ont repris à deux reprises, mais que la troisième dernière, au niveau de l'article 4, ils n'ont pas repris cette exigence. Et là aussi, je retrouve l'intelligence du fonds, le fait que sur le plan de l'argumentaire, il est sensible à l'argumentaire, et que là aussi, il n'y a pas cet esprit dogmatique dont on taxe le Fonds monétaire international, mais que j'ai vu que dans le cadre des relations que j'ai eues avec lui, au contraire, est-ce que je suis un vieux négociateur avec lui et qu'il me fait un petit peu confiance, mais de toutes les façons, nous avançons toujours intelligemment. Et là aussi, c'est des choses que nous allons devoir préparer au fur et à mesure et qui sont des réformes terriblement importantes. Mais là, nous disons, attention, un des prérequis, eh bien, c'est la soutenabilité budgétaire. Et même au niveau de la modulable, nous sommes heureux, les fondamentaux sont très solides. Mais dans la discussion, le fonds a été très clair. Il nous a dit, vous voulez l'obtenir, il y a trois conditions essentielles. Vous sortez du GAFI, votre soutenabilité budgétaire à moyen terme est là, elle est affirmée, et vos réserves de change sont à un niveau qui nous agrée. Une fois qu'on a dit ce qui est essentiel est là, on est arrivé au niveau de la négociation très vite pour aboutir à la finaliser dans les meilleures conditions.
Tout à fait. Bon, si on compare les années 80, votre relation avec le FMI dans les années 80 et plus récemment, comment, selon vous, comment le FMI a évolué? Vous avez vu une évolution?
Je crois que l'évolution a été énorme, très honnêtement. Uh-huh. Très honnêtement. Je me rappelle que dans les années 80, c'était le menu à la carte.
Ok.
Ça. Je crois que maintenant, les choses évoluent en fonction de l'appréciation qui est apportée sur la situation de chaque pays, avec, je dirais, une analyse approfondie, la spécificité qui est là, les évolutions qui sont en jeu, le fait de voir est-ce que les engagements ou les promesses formulées par le pays sont tenues ou pas, tout ça, ce sont des évolutions que j'ai senties. En plus, qui est très très important, c'est qu'il y avait dans les années 80 des sujets tabous que le Fonds n'abordait jamais. Mm-hmm. Par exemple, la corruption, le Fonds n'abordait jamais le problème de la corruption. Quand vous abordez la répartition des fruits de la croissance, le fonds n'abordait pas. C'était la croissance, et puis on n'en parlait pas.
Ouais.
Maintenant, on parle de corruption. Mm-hmm. Maintenant, on parle de croissance durable,
inclusive.
Donc, le fait, on parle de cibler les aides. On parle aussi sur le fait que sur le plan des relations avec le fonds, là aussi, quand je vois le code de transparence du fonds auquel nous avons souscrit et nous avons été parmi les premiers de cette région à souscrire, je trouve qu'il y a là des évolutions qui sont énormes, qui ont été faites entre les années 80 et maintenant. Et je suis persuadé que maintenant, c'est une dynamique qui est en train, au contraire, de plus en plus de se développer. Quand je vois ce qui a été fait au niveau du Covid, et que l'attitude du fonds et de la banque vis-à-vis des pays développés en ce qui concerne l'accès aux vaccins des populations démunies, et qu'ils ont tapé sur la table du G20, je vois que ce sont des évolutions qui sont énormes.
Oui.
très importante. Quand je vois que ce qu'ils ont tapé sur la table en disant pour les pays pauvres, en ce qui concerne la dette, leur dette, soit à ce qu'ils sont en train de faire, de réunir un petit peu tous les créanciers ensemble, privés, publics, etc., sont des évolutions qu'on ne voyait pas. Et maintenant, avec le changement de paradigme que nous sommes en train de voir, ben, le fonds est présent. Ben, ce que nous allons faire lundi avec la directrice générale à son arrivée, ben, en parlant de monnaie numérique banque centrale, ben, c'est énorme. Ben, je lui dis, ben, dans un pays où le cash est énorme, ben, que déjà nous sommes en train de travailler là-dessus avec l'appui du fonds technique, du fonds et de la banque. Je viens d'ailleurs de recevoir le dernier rapport de la mission technique, qui est de très haute qualité aussi. Je vois qu'il y a des évolutions qui se sont faites de façon énorme. Et c'est ça l'intelligence, et c'est ça ce qu'il faut développer. Et c'est ça ce qui, à mon avis, va devoir réconcilier aussi nos populations qui avaient, quand vous leur parlez du fonds, le fonds était vu comme étant celui qui imposait ses dictats. C'est celui qui représentait les pays développés, les plus, qui ont l'influence sur la décision. Mais maintenant, ça commence à évoluer autrement.
Merci, monsieur le gouverneur. Très intéressant, bien sûr. Jusque-là, nous avons parlé du passé.
Oui.
Maintenant, projetons-nous dans le futur.
Oui.
Bon, l'économie mondiale, on est dans une incertitude qui est assez élevée. Il y a une fragmentation géoéconomique qui est en train de se passer. Mais en même temps, le Maroc, aujourd'hui, entame une nouvelle série de réformes avec l'ambition de rendre la croissance plus forte et plus résiliente et plus inclusive. Quelles seraient, selon vous, les clés de succès de ces réformes? Et comment vous voyez le rôle des institutions internationales, que le FMI ou les autres, dans cet environnement international pour accompagner le Maroc et les autres pays dans ces réformes?
Oui. D'abord, je pense que ce qui m'inquiète, c'est maintenant la domination du politique. Il y a maintenant une fragmentation géopolitique qui est énorme et qui est dont on ne voit pas quelle solution. J'entendais encore aujourd'hui la Russie poser les conditions pour une paix. Je me demande comment, ben, de l'autre côté, on va pouvoir accepter des conditions comme celle-là. Où va-t-on? C'est ça le problème. Où va-t-on? Est-ce que on va revenir à une guerre froide? Est-ce qu'une guerre de civilisation, puisqu'on commence à parler de l'Occident et de ce qui n'est pas l'Occident? Puis, ce que je vois, c'est que maintenant, tout le monde se cherche. Quand je dis se cherche, on se dit quel clan je vais choisir. Est-ce que je choisis tel clan ou tel clan, où je vais me mettre un petit peu au milieu en attendant? Et tout ça, quand vous voulez aller dans le cadre de ce qui est économique, dans le cadre de ce qui est développement, il n'y a pas pire que l'incertitude. Il n'y a pas pire que le manque de visibilité. Quand vous n'avez pas de visibilité, quand c'est de l'incertitude, ça, ce sont des prémices, ce sont un environnement qui n'est pas du tout propice au développement économique et financier. Évidemment, nous, en tant que pays, nous sommes dans la même situation, parce que ça s'impose un petit peu à tout le monde. Ce que je dis, et j'espère que, de l'autre côté, dans cette conjoncture qui est née avec la guerre de l'Ukraine, le deuxième élément, c'est que pas mal de populations n'ont pas vu leur situation s'améliorer avec la mondialisation, la globalisation, le multilatéralisme, l'ouverture, alors qu'on disait ça va être porteur, au contraire, de richesses, de plus de richesses, de plus de bien-être. Ça, les gens sont... Et puis, il faut bien le dire aussi, à travers le monde, c'est qu'il y a un délitement au niveau des élites politiques. On le voit à travers le monde, que ce soit d'ailleurs dans les pays développés, pays émergents ou les pays en développement. Et ce délitement fait que la population n'a plus confiance au niveau de ce qui est politique ou de ce qui est public. Et d'ailleurs, cela rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, les banques centrales deviennent des centres, eux, je dirais, de dire vrai. Et on a plus confiance dans ce que dit la banque centrale qu'en ce qui concerne un petit peu ce que disent les politiques. Ceci dit, il faudrait rester quand même optimiste, sinon, bon, ben, on va rentrer chez soi et s'enfermer, non? Il faut rester optimiste. Je pense, et c'est là où les organisations internationales, et d'ailleurs c'est là où je trouve qu'il y a de l'intelligence aussi, remettent sur la table la réflexion sur leur propre mission. Comment elles doivent remplir leur nouvelle mission? Dans quelle direction? Qu'est-ce qu'elles doivent prioriser? Et c'est là où, eh bien, ce que je dis, nous devons également réfléchir à ce que le monde apporte à ces générations à venir. Ce sont ces jeunes générations. Quoi leur apporter? Parce qu'on aura beaucoup de destruction d'emplois, mais quel nouveau emploi? Et tout ça effraie un petit peu. Et c'est là où l'assistance sur le plan de la conception des politiques, des priorités à mettre en œuvre, et évidemment de la convergence entre ce que doit faire l'État, ce que doit faire le secteur privé, la convergence de pouvoir faire capitaliser sur les efforts des uns et des autres pour aboutir à des résultats probants, me paraît d'être peut-être pour l'avenir maintenant ce à quoi il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je n'ai pas de solution miracle, il n'y en a certainement pas, mais c'est la réflexion globale, la réflexion d'ensemble, et c'est pour cela que la réflexion que nous allons déjà mener au niveau de la monnaie numérique Banque Centrale fait partie de ces changements de paradigme et de ces échanges d'expériences avec pays développés et pays en voie de développement, de façon à ce que nous puissions réduire ou éviter cette fracture au niveau numérique.
Numérique, tout à fait. Bien sûr, monsieur le gouverneur, tout à fait. Et ceci me ramène à la dernière question que j'ai sur les assemblées annuelles en octobre.
Oui.
Parce qu'on est dans cette situation et vous avez mentionné les fractures numériques, climatiques, de développement. Et disons, quelles sont vos attentes de ces assemblées? Qu'aimeriez-vous voir au cours de cette semaine pour que vous dites que ces assemblées ont bien réussi?
Mais écoutez, évidemment, le problème est plus complexe maintenant qu'au niveau des assemblées que j'ai vécues. J'ai été à Bali en 20 ans, j'ai été à Dubaï, j'ai été Lima. Non, j'ai été absent à Lima. Mais le reste,
j'ai Istanbul.
Mais maintenant, oui, Istanbul, bien sûr, j'ai été à Istanbul. Mais maintenant, cette complexité de fragmentation géopolitique, géoéconomique, qui s'ajoute à des changements de paradigme qui vont très très vite, qui ont leurs opportunités, mais qui ont également tous les risques qu'ils comportent, et ce qui sont des risques essentiels et importants. Alors, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Quel message il faut porter? Et comment par la suite assurer le suivi et l'évaluation de ce que nous avons fait? Si nous avons à Bali fait la déclaration sur les fintechs, alors il est difficile d'imaginer quelle va être la déclaration Marrakech. C'est quoi? Un peu difficile, un peu difficile. Pour synthétiser tout ça, quoi prioriser? Bien sûr, on doit dire, on ne va pas enterrer le multilatéralisme. Faut pas enterrer le multilatéralisme. Sinon, chacun pour soi, je crois qu'on va revenir des décennies en arrière. Ben, au contraire, il faut peut-être regarder le bilan, regarder ce qui a fait les faiblesses de tout ça, ou ce qui a concouru au résultat négatif ou au point négatif de cette évolution, essayer de bâtir quelque chose de positif pour l'avenir, mais en s'appuyant sur des institutions plus fortes, sur des institutions dotées de moyens plus sûrs, bien évidemment de groupes, de moyens humains beaucoup plus forts et plus développés, plus multipliés, qui puissent répondre à des besoins qui vont être de plus en plus diversifiés, de plus en plus gros, et de plus en plus lourds et qui coûtent. Donc c'est à ça qu'il faut faire, on doit faire un petit peu ensemble attention. Ben, ce que j'ai dit, il faut garder il faut garder l'optimisme, il faut renouer avec le multilatéralisme, mais il faut l'opérationnaliser d'autres fois, savoir quoi prioriser, le faire ensemble, bien, en essayant de dire que nous nous appuyons sur ce qui est le côté plus positif chez l'humain que ce qui est négatif chez lui. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Très intéressant. Merci. Bravo.
C'était Abdellatif Jouhari, gouverneur de la Banque du Maroc, qui s'entretenait avec Taline Coran-Chalian, directrice adjointe du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, à la veille des assemblées annuelles 2023 qui se tiendront à Marrakech en octobre. Recherchez d'autres podcasts du FMI partout où vous obtenez vos podcasts et suivez-nous sur Twitter. Je suis Bruce Edwards. Merci pour l'écoute.